sentiment que la situation avait passablement changé en 81. Tout d'abord, on n'était plus dans cette longue lutte qui avait duré 100 ans pour le suffrage. Il y avait un souffle nouveau qui avait été apporté d'une part par le nouveau féminisme et d'autre part par l'obtention du droit de vote 10 ans plus tôt. Ce qui fait qu'à mon sens, c'était l'opposition à l'égalité était infiniment moindre que l'opposition au suffrage. Deuxième chose, les femmes votaient. Donc, on pensait qu'en grande majorité, elles voteraient en faveur de l'égalité. Et puis, troisième chose, c'était plus difficile en 1981 de se dire contre l'égalité que de se dire en 1950 contre le suffrage des femmes. Donc, il n'y avait pas d'opposition crier haut et fort. Il y avait une opposition plus larvée, mais c'était difficile de se manifester d'une façon absolument claire contre l'égalité, même si certains n'étaient pas d'accord. Mais Jacqueline Bernstein, la première, je vois.
Moi, je voudrais dire un complément. L'égalité qui a été inscrite dans la Constitution à la fin de ce fameux article 4, alinéa 2, il y a une phrase essentielle. L'homme et la femme ont un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et c'est là-dessus, seulement, que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. En particulier, évidemment, comme les femmes sont moins payées que les hommes, ceux qui les payent, ils sont tout contents de les payer moins. Alors, ils n'étaient pas contents qu'on mette ça dans la Constitution.
Simone Chappuis.
Moi, j'aimerais dire à propos de cet article 4 que ça me rappelle tout le dernier chapitre de Vers la majorité politique qui est, à mon avis, le plus intéressant parce qu'il s'agit de l'interprétation de la Constitution fédérale et de cet article 4. Dès le début, les suffragettes se sont bien aperçues que cet article garantissait l'égalité entre les hommes et les femmes. Et elles ont essayé de faire valoir cette garantie qui se trouvait dans la Constitution. Et je raconterai juste deux anecdotes. L'une, c'est celle d'Emily Kenpin Spiri, qui est une avocate zurichoise, qui avait pu faire comme première étudiante à Zurich ses études de droit. Elle pouvait devenir avocat, mais elle ne pouvait pas exercer sa profession parce que pour exercer la profession d'avocate en Suisse, il fallait avoir le droit de vote. Or, elle n'avait pas le droit de vote, donc elle ne pouvait pas être avocate. Bien entendu, comme elle connaissait bien la loi, elle a essayé de recourir jusqu'au tribunal fédéral. En vain, elle n'a pas eu le droit d'exercer sa profession. Et deuxième histoire que je voulais rappeler, c'est le recours d'Antoinette Cage qui a entraîné 1400 femmes de Suisse romande, dont 1125 vaudoises, à demander leur carte de vote. Et ces femmes ont écrit à leur commune pour demander leur carte de vote. On la leur a refusée, bien entendu. Elles ont recouru auprès des autorités cantonales et ensuite auprès du tribunal fédéral. Et il s'est quand même trouvé 2 juges sur 7 pour reconnaître qu'on pouvait interpréter cet article 4 dans le sens de la vraie égalité. Mais vous voyez, l'interprétation n'a pas pu être utilisée comme motif pour donner le suffrage féminin directement aux femmes. Il a fallu passer par toutes les votations sur les plans cantonal et fédéral. Mais c'est une partie très intéressante du livre.
C'est vrai ce que disait Martine Chapenière tout à l'heure. Il y a une chose fondamentale qui a changé entre la votation sur l'obtention du droit de vote et celle sur l'inscription dans la Constitution de l'égalité entre hommes et femmes, c'est le développement du mouvement féministe. Et ça, c'est une chose, évidemment, qu'on ne peut pas ignorer, et le poids qu'a eu ce mouvement, même en Suisse, pour l'avance des droits de la femme. Et surtout, le fait que des femmes de tous horizons se sont mis à participer aux à la lutte pour l'obtention des droits de la femme et surtout dans leur quotidien. Parce que la particularité de ces deux étapes-là, c'est que c'est une étape très légaliste qui fait que on doit agir par rapport aux structures politiques suisses avec toute la difficulté que ça représente de persuader une population entière et en plus dans la première étape que les hommes à vouloir bien voter pour donner ces droits. Aucun autre pays, je crois, sauf les États-Unis, ont dû faire cette demande, cette démarche populaire. Par ailleurs, partout, ça s'est décidé au sein des parlements. C'est vraiment une particularité suisse. Tandis que le mouvement féministe, c'est une toute autre histoire. C'est désormais chaque femme qui va devoir négocier dans sa vie quotidienne, dans sa relation avec les hommes, dans sa relation sur ses lieux de travail, dans sa relation en tant que dans la vie culturelle et partout, sa place et le droit d'exercer ses responsabilités et de mettre en avant sa créativité pour donner un petit peu tous les aspects de ce que les femmes ont cherché à revendiquer, que cela concerne leur corps, que cela concerne les enfants, que cela concerne leur relation avec leurs compagnons, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas oublier cela quand on parle de la suite des événements. Cela a eu une influence pour la votation de 81, c'est certain. Et aujourd'hui, cela pèse toujours. En favorable ou en défavorable, ça dépend. Et c'est ça que j'aimerais que nous puissions discuter maintenant. Parce qu'on a ces droits, officiellement, légalement, on est censé être les égales des hommes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que par le droit au salaire égal, les femmes sont largement encore défavorisées. Et on sait que c'est surtout cela qui posait problème en 81. Alors, à partir de ce constat-là, il s'est trouvé des femmes pour continuer à se battre à la suite du mouvement féministe qui s'est développé depuis dans les années 70 et qui, aujourd'hui, disons, garde une drôle d'étiquette auprès des femmes. Certaines jeunes femmes qui n'ont pas participé à ce mouvement-là disent, ayant vu leur mère se battre pour ça, « Mais maintenant, on a tout, on n'a plus besoin de se bagarrer, on a tout. » Et puis, d'autres qui ont participé au mouvement disent, « Mais non, on voit bien, ce n'est pas encore appliqué, on n'a pas encore tout. » Et puis, il y a certaines qui disent, moi, je ne veux pas qu'on me colle sur le front l'étiquette féministe, parce que c'était celle qui jetait leur soutien-gorge, celle qui envoyait les hommes sur la lune, etc. Moi, je ne veux pas être apparentée à cela. Enfin, bref, il y a toutes sortes de réactions. Alors, peut-être nous pourrions demander aux deux traductrices du livre, qui, elles, font partie de cette génération de femmes qui n'a pas participé au mouvement féministe à l'origine, qui ont vu peut-être leur mère se battre pour, qu'elles nous disent peut-être ce qu'elles pensent de cette situation et de la réaction des jeunes femmes autour d'elles face à comment continuer la lutte. Parce que est-ce que vraiment nos chaînes sont brisées? Est-ce que vraiment on nous reconnaît comme majeures pour se référer au titre du bouquin de Lotti Rouxtoul? Florence Schwed?
J'ai personnellement l'impression que dans ma génération, ou du moins dans les jeunes femmes que je fréquente, elles se sentent assez peu concernées par tous ces problèmes. Elles n'ont pas l'impression d'être lésées, je crois, de quelque manière que ce soit. Elles ne comprennent pas très bien, pour la majorité d'entre elles, qu'on ait par exemple envie de garder maintenant son nom de jeune fille en se mariant. Et ont l'impression que, en tout cas, les choses importantes ont été acquises. Et elles ne voient pas très bien ce qu'on pourrait encore faire maintenant. Je crois d'ailleurs que la majorité d'entre elles pense que cette grève des femmes est quelque chose de passablement amusant. Elles ne le prennent pas très au sérieux, mais là, je n'exprime que l'opinion des quelques personnes avec qui j'ai pu en parler. Il me semble que peut-être qu'au-delà de la trentaine, les femmes prennent ça plus au sérieux, sont davantage intéressées.
Quant à vous-même?
Quant à moi, j'ai personnellement gardé mon nom de jeune fille, ce qui fait penser à certaines personnes automatiquement que je suis une féministe convaincue et acharnée. Je suis consciente des inégalités qui existent encore à l'heure actuelle et je pense qu'il y a certainement encore bien des choses à faire dans plusieurs domaines.
Catherine Bécourt?
Oui, moi aussi, j'ai conservé mon nom de jeune fille quand j'ai épousé mon actuel époux. Et bon, je crois que c'est ça aussi, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de femmes, même maintenant, considèrent ça pas du tout important, alors qu'en fait, je crois que c'est une certaine identité. Et beaucoup de jeunes femmes de notre âge, en fait, se rendent pas du tout compte de tout ce qu'elles peuvent encore faire pour faire améliorer la cause des femmes, en fait.
Je pense que, en effet, pour améliorer la cause des femmes, ce que les femmes doivent vraiment acquérir, c'est la possibilité matérielle de pouvoir s'épanouir là où elles sont. Et c'est ça qui est important, et elles ne l'ont pas encore toutes. Et c'est ceci qu'il nous faut, enfin, si nous voulons encore avoir des actions, il faut avoir des actions naturellement pour l'égalité de salaire, mais il y a certains domaines où l'égalité de salaire, en particulier par exemple à l'État de Genève et dans certains autres domaines, il existe, mais on doit encore pouvoir donner à chaque femme, comme il l'est donné à chaque homme, la possibilité de s'épanouir, c'est-à-dire de se réaliser lui-même et elle-même en tant que femme dans la vie, et que son sexe ne soit pas pour la femme des barrières.
Alors il se trouve qu'il y a quelques initiatives qui ont été lancées par des femmes. Quand je dis initiative, c'est pas forcément dans la version juridique et légale par rapport aux structures politiques suisses. À l'heure actuelle, les femmes se battent sur plusieurs fronts. Vous avez certainement, bien sûr, entendu parler de la future grève du 14 juin. J'aimerais bien que nous en discutions maintenant. Mais il y a aussi d'autres initiatives qui ont été lancées, entre autres celle de Conseil 2000. Alors, Simone Chapuis, vous qui êtes au plein cœur de là, et Martine Chaponnière qui travaille sur une même idée aussi à l'université, par exemple, on pourrait évoquer cette première étape, cette lutte que mènent certaines femmes très concrètement pour faire avancer ce que vient de dire Jacqueline Berensweinwald.
Oui, bien... Ça n'est pas très nouveau de vous annoncer que le nombre de femmes qui font de la politique et le nombre de femmes qui sont candidates et surtout de femmes qui sont élues est encore très faible. Ça fait des années que notre association surveille cette très très lente conquête des sièges dans les parlements cantonaux et sur le plan fédéral au Conseil national et au Conseil des États. Cette proportion en Suisse est actuellement de 13,5%. Pensez bien qu'en 20 ans, arriver seulement à ce chiffre de 13% ne nous satisfait pas du tout. Alors, des femmes, des associations, de très grandes associations féminines suisses comme l'OFRA, comme la Fédération suisse des familles monoparentales, comme la Ligue suisse des femmes catholiques, la Fédération suisse des femmes protestantes, l'Association suisse pour les droits de la femme, etc., etc., se sont mises ensemble pour lancer une initiative qui s'appelle Conseil national 2000. Et ce que nous voulons, c'est tout simplement la moitié des sièges. Nous proposons un nouveau système de votation, d'élection, nous proposons une nouvelle espèce de représentation proportionnelle. La représentation proportionnelle a été introduite en 1919. Elle a été modifiée bien des fois au cours des âges. Dans certains cantons, sur le plan cantonal, elle a été introduite au siècle passé, alors que dans d'autres cantons, elle a été introduite très récemment, en 1960 encore. Donc, ce système de la représentation proportionnelle qui est modifiable, qui est différent d'un coin à l'autre de la Suisse, qui a été modifié plusieurs fois sur le plan fédéral, nous estimons que nous pouvons encore le modifier une fois en proposant ce système nouveau d'élire la moitié du Parlement avec des listes féminines et l'autre moitié du Parlement avec des listes masculines. Dans chaque canton, il y aura des listes féminines et masculines pour chaque parti.
Alors, on peut peut-être ce serait bien que les femmes et les hommes qui sont dans le public réagissent peut-être par rapport à ces diverses propositions et nous disent ce qu'ils en pensent. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Cette initiative est déjà lancée en Suisse allemande, a quelques petits problèmes pour parvenir en Suisse romande pour de la traduction, mais très vite elle sera là. Donc elle vous serez amené peut-être à signer. D'accord. Elle est même déjà là. Ah, oui, fantastique, oui, oui. Voilà. Alors peut-être vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de cette initiative. En matière de quotas, c'est-à-dire de proportion d'hommes et de femmes, il y a d'autres propositions qui sont faites pour essayer de faire accélérer la présence des femmes dans des lieux à décision. C'est par exemple celle qui se discute au sein de l'université, Martine Chaponnière.
Oui, j'essaierai de résumer ce qui se passe, parce que si on veut vous donner la parole, il faut que nous, on se taise. Mais je voudrais simplement dire une chose sur la philosophie de la chose. L'initiative Conseil national 2000, telle que vient de l'exposer Simone Chapuis, part du principe qu'il faudrait plus de justice et une meilleure représentation des femmes dans le Parlement, et qu'on ne sait pas comment y arriver, que tous les moyens ont été essayés et qu'on ne sait pas comment y arriver. Donc, il y a cette proposition pour que ce soit comme ça. Ça part de l'idée que des femmes au Parlement représenteraient les femmes. Et c'est cette idée-là dont je ne suis pas absolument persuadée. C'est mon problème avec la philosophie, je dirais, de la chose. C'est que je crois que je préférerais voter pour un homme qui défend les intérêts des femmes que pour une femme qui ne défend pas les intérêts des femmes. Et il y en a. Donc, ce n'est pas forcément une question de sexe. Il y a aussi une question de parti ou d'options politiques qui entrent en ligne de compte. Et je crois qu'il faut tenir compte de cette donnée. En ce qui concerne l'université, on avait le même problème. Il y a, je ne sais pas quoi, 4% de femmes professeurs. Et on a essayé de dire qu'à compétences égales, quand l'université cherchait un professeur, il fallait nommer une femme. On s'est fait, nous, le groupe de femmes qui avons proposé ça, ramasser par la communauté universitaire, l'intégralité des professeurs pratiquement étant contre. Ce que je peux comprendre, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre mentalité. Cela dit, ça a eu des effets extrêmement bénéfiques parce que la communauté universitaire a été obligée de discuter la question et a finalement proposé un projet où il n'y a pas de quota, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés de nommer tant de femmes en tant d'années, mais à compétences égales, ils doivent prendre le dossier femmes. Ou la femme candidate. Donc, je crois que les quotas peuvent, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ou l'initiative Conseil national 2000 qui n'est pas des quotas, je dirais, peuvent servir en tout cas à faire avancer le débat parce qu'on n'a plus d'autres moyens pour arriver. Une fois que les lois sont changées et que l'égalité n'est toujours pas réalisée, il faut trouver quelque chose.
Alors, est-ce que parmi nos spectateurs et spectatrices, vous avez des questions à poser ou des interventions, votre avis tout simplement à donner par rapport à cette proposition, soit de Conseil national 2000 ou par rapport à ce que vient de dire Martine Chapenière sur la philosophie de l'histoire? Oui, attendez le micro.
Le Conseil national 2000, mais quels sont les arguments des hommes contre le fait qu'il y ait un quota?
Mais madame, c'est tout simple.
Ils sont
actuellement à 80% les hommes. Alors, ça veut dire qu'il y en a, quand il y en aura plus que 50%, ça veut dire qu'il y en a 30% qui devront disparaître. Alors, ils ne sont pas contents. C'est tout simple. Non, mais et puis, il y a, ça c'est une argumentation d'ordre purement mathématique. N'est-ce pas? Et puis, il y a l'autre argumentation, c'est qu'on ne veut pas... cette loi est peut-être un petit peu compliquée. Et on peut, sur le plan technique, vous savez, c'est toujours comme ça qu'on commence à être contre en disant que c'est trop compliqué,
non,
que
mais
si,
y a,
que
y a
ça.
Une autre raison. La raison majeure, c'est qu'une femme qui a moins de voix qu'un homme passerait. C'est surtout ça qui est antidémocratique, oui, selon eux.
Oui, antidémocratique selon eux, mais c'est pourtant un système qui est déjà en vigueur, puisque quand vous comparez, par exemple, les partis entre eux, il arrive qu'un candidat d'un parti X passe avec 20 000 voix, alors que le candidat du parti Z ne passe pas avec 30 000 voix. Alors, Simone Chapuis, qu'en pensez-vous ?
Ça, c'est le système de la représentation proportionnelle. Il est comme ça. Et nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas aussi favoriser les femmes avec un nouveau système de la représentation proportionnelle.
Oui, mais ce n'est pas qu'une question mathématique, c'est forcément une question de mentalité. Alors...
Oui, alors là, vous avez raison. Pour faire signer, bon, ça sera une question de mentalité.
Je comprends très bien qu'il faille une utopie. Je comprends très bien, j'en suis. Mais je trouve que les mentalités sont tellement difficiles à faire changer. Ça me semble... cette histoire de 50%, ça me semble une belle utopie. Mais est-ce qu'on va pouvoir se donner les moyens et comment, c'est ça?
Mais vous avez prononcé le mot, nous avons précisément voulu lancer cette initiative en 1991. Et j'aime mieux vous dire qu'on s'est dépêché pour préparer toute cette campagne, parce que c'est l'année de toutes les remises en question, parce que c'est l'année de l'utopie. Il nous a semblé qu'il fallait que nous proposions un nouveau système d'élection au Conseil national, précisément en cette année-là. On a bien... Dès l'obtention du suffrage féminin pour les femmes, on a bien changé le nombre de signatures pour les initiatives et les référendums. Pourquoi, depuis, n'a-t-on jamais songé à changer le système d'élection aux chambres fédérales alors que le corps électoral était deux fois plus nombreux et que les femmes avaient le droit de vote ?
Mais il y a encore tout le problème de l'économie, du temps. On sait bien qu'une femme, malgré tout, assume plus de choses qu'un homme. Et je pense que c'est les arguments que les hommes ne développent pas, mais qui existent.
Peut-être qu'avec votre remarque, vous nous permettez d'entrer de plein fouet dans l'idée de la grève du 14 juin, parce que je crois que c'est effectivement un problème fondamental. Quand les femmes ont voulu s'engager politiquement dans la vie politique, elles se sont toujours heurtées à la difficulté d'assumer à la fois leurs engagements politiques et de mener de front leur vie de mère de famille, leur vie de femme d'intérieur, leurs envies de vie personnelle. Et jongler avec ces trois choses en faisait les superwomen qu'aujourd'hui beaucoup de femmes disent « je ne veux pas être une superwoman, je n'ai pas l'intention d'avoir jamais une minute pour moi ». Alors certaines ont opté pour l'un pour l'autre, l'une ou l'autre des voies, mais on se dit que peut-être ce qui serait le mieux, c'est de continuer à faire évoluer cette répartition des tâches et des charges entre hommes et femmes qui ferait qu'il n'y aurait pas toujours ces choix si épouvantables à devoir faire. Je renonce à faire ci parce que je crois que c'est mieux de faire ça et ainsi de suite. Alors, la grève du 14 juin est là pour poser ces problèmes-là. À l'initiative des organisations syndicales, des organisations féministes et féminines de tout genre en Suisse, a été proposé que le 14 juin, qui donc est la date de l'obtention de l'égalité des droits entre hommes et femmes inscrits dans la Constitution, 10 ans, les femmes marquent le fait que lorsqu'elles se croisent les bras, le pays ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce que cette grève risque d'amener dans cette avance des droits des hommes et des femmes et de l'égalité des droits des hommes et des femmes? Et surtout, comment les femmes ressentent-elles cette nouvelle proposition? Parce que c'est de nouveau cela qui nous intéressait et nous avions envie de parler avec vous. C'est effectivement, il y a les femmes qui ont des réticences. D'abord, le mot grève. Je crois que j'ai découvert à quel point le mot grève fait peur en Suisse. Comment les femmes peuvent-elles proposer une grève dans un pays où on a si peu souvent utilisé la grève comme moyen de lutte, en tout cas ces dernières années? Et il y a aussi le fait que des femmes disent « mais ça ne sert à rien, on n'obtiendra de toute façon rien ». Enfin, il y a toutes sortes de réticences parmi les femmes elles-mêmes. Et heureusement, une très forte énergie, une très forte cohésion parmi les femmes qui ont lancé ce mouvement. Alors, je ne sais pas, peut-être nos invités, chacune à leur tour, qu'en pensent-elles? Et vous autres femmes et hommes, qu'en pensez-vous?
Alors, très rapidement, moi je dirais premièrement que si on n'avait pas parlé du mot « grève », je crois qu'on ne parlerait pas de cet anniversaire, ou à peine, ou il passerait inaperçu. Alors ça, c'est déjà une bonne chose, c'est qu'on va parler de cet anniversaire et pour moi, je le fêterai, je m'habillerai en rose, puisque c'est la couleur lancée pour ce jour-là. Cette couleur, la couleur du pullover de madame là-bas,
oui, j'ai habillé.
J'irai dans la rue récolter des signatures pour une autre inégalité. Et comme je suis devenue féministe pour une question de salaire, il y a 30 ans, je gagnais 300 francs de moins qu'un collègue qui enseignait dans les mêmes classes, qui avait fait les mêmes études que moi. Alors ça, c'est la chose qui m'avait fâchée et qui m'avait rendue féministe. Ce n'est pas les arguments de ma mère qui était déjà féministe et qui luttait pour le droit de vote. Ce n'est pas les arguments de mon prof de latin qui disait « Pourquoi moi qui suis prof de latin, je n'ai pas le droit de vote ?» Alors qu'un garçon bouché là ou qu'un... Enfin, etc., etc. Eh bien, c'est comme ça que je suis devenue féministe. Alors, je fêterai l'anniversaire du 14 juin.
Jacqueline Bernstein.
Moi, personnellement, pour cette grève du 14 juin, j'ai décidé de représenter, pour moi, les ménagères, c'est-à-dire celles qui travaillent énormément, dont personne ne tient compte, dont on ne tient pas compte du temps qu'elles consacrent à leurs enfants, à leur ménage, à leur mari, etc. Et c'est pourquoi nous voulons que ce 14 juin, les femmes, toutes les femmes, parce que nous sommes toutes des ménagères, aussi bien les femmes qui travaillent à temps partiel, les femmes pour un travail rémunéré à temps plein, nous sommes toutes des ménagères et ce travail que nous faisons pour les autres, on ne le reconnaît pas. C'est pourquoi nous avons eu au Collège du Travail, dont je m'occupe, l'idée de faire un badge que je porte aujourd'hui, avec un peu d'avance, qui s'appelle « À la maison et au dehors, je vaux de l'or ». Parce qu'on veut valoriser ce travail. Et on se rend compte que dans les assurances sociales, pas seulement dans la VS, dans l'AI, dans l'assurance accident, dans l'assurance chômage, si on veut reprendre du travail, dans toutes les assurances sociales, la ménagère, elle est égale à zéro. Et la ménagère aussi, si elle arrête son boulot, eh bien, le pays s'arrête aussi. C'est la raison pour laquelle il faut montrer que la femme qui travaille à la maison, qui éduque ses enfants, elle a un travail qui vaut de l'or et qui doit être reconnu socialement.
Martine ?
Oui, moi j'ai passablement changé d'opinion sur la grève depuis 3 ou 4 mois. J'étais assez contre au début. Et je suis pour maintenant, notamment parce que je crois, en effet, comme le disait Simone Chapuis, que s'il n'y avait pas eu la question de la grève, ça n'aurait pas donné les débats autour de la question des femmes comme aujourd'hui. Je crois que seul quelque chose qui est menaçant a permis que le débat s'ouvre, et notamment, ce que je trouve le plus important, le débat entre les femmes. Et quand on dit « si les femmes font grève, ça va se retourner contre les femmes », c'est un des arguments majeurs utilisés par les femmes elles-mêmes. Je crois finalement que c'est faux, parce que je crois que c'est quand on ne fait rien que ça se retourne contre les femmes. Au point où on en est, quoi qu'on fasse, ça ne peut pas se retourner contre elles. Qu'est-ce qui peut se retourner quand les femmes gagnent en moyenne 30% de moins que les hommes? Elles ne vont pas gagner 50% de moins avec la grève. Donc finalement, je suis pour.
Je crois qu'il y a plein de femmes qui ont des réticences par rapport à cette grève. D'abord parce qu'elles ont peur du mot « grève » peut-être. Parce que pour certaines, c'est certain que de faire grève et non pas de demander congé, ce que suggèrent certains patrons, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se sont annoncées dans les journaux en disant « moi, j'accorderai le droit de congé aux femmes qui le demandent, mais c'est pas ça, normalement, faire grève ». Alors pour elles, ça représente un rapport de force évident avec leur patron, c'est pas si simple. Pour les infirmières, comme toujours, c'est pas simple de quitter leur travail. Etc. Mais il y a ce que proposaient les femmes qui se sont engagées dans cette voie, 1000 façons de faire grève et de le faire surtout en marquant cela par des mouvements drôles, des fêtes, par des moments prolongés de pause, enfin il y a 1012 façons et c'est ce que les femmes pourraient discuter entre elles. Enfin, ce qui me semble positif, c'est que j'ai l'impression qu'à tous les coins de rue en ce moment, que ce soit quand on va faire nos achats, ça m'est arrivé en allant à la Migros, on a discuté de la grève avec des femmes qui travaillaient à la boucherie, ou que ce soit avec des amies féministes, ou que ce soit partout ailleurs, des femmes qui ont, elles, déjà, et qui se cachent parfois derrière le fait qu'elles ont, elles, la chance d'obtenir l'égalité de salaire, d'engagement, etc. Mais ça permet toute une discussion, Et je crois que ce serait intéressant qu'on puisse avoir votre avis sur comment vous voyez que cette grève pourrait prendre divers aspects qui ne sont pas quelque chose qui puisse desservir les femmes, mais au contraire, montrer qu'elles sont là et qu'elles ont l'intention de continuer à se bagarrer. Je crois que c'est ça qui est essentiel.
Le but, vous voyez, de cette grève, c'est qu'on y participe de n'importe quelle manière, mais qu'il y ait, qu'on soit une majorité. Et ceci, elle a pour but la prise de conscience.
Voilà, c'était le débat organisé par la librairie L'Inédite lors du Salon du Livre 91 dans le village alternatif Une autre Suisse dans un autre monde. Eh bien, l'année prochaine, nous espérons que l'expérience sera tentée. Ça en vaut la peine parce qu'il y a des échanges vraiment très importants qui se font durant ces débats. Remue Ménage, c'est aussi terminé pour aujourd'hui. Et je passe le micro à mes amis de Radio Pleine Lune. À la semaine prochaine.